Bienvenue dans votre magazine Terre d'Héritage.
Terre d'Héritage, c'est valoriser le patrimoine près de chez vous. Le patrimoine de la Sarthe, de l'Orne et de la Mayenne. Nous allons vous faire découvrir les trésors qui vous entourent.
Terre d'Héritage sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles. Le mémorial des déportés de la Mayenne, un lieu de mémoire, hommage aux déportés de ce département. Nous recevons sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles Élodie Roland, coordinatrice de la Vigie. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Donc changement de nom et d'identité visuelle pour le mémorial, je vous propose de commencer par nous expliquer les raisons de cette nouvelle appellation.
Oui, donc l'association a voulu faire évoluer son nom. Donc c'est une réflexion qui n'est pas nouvelle. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on réfléchit à faire évoluer ce nom pour vraiment coïncider et refléter avec les missions du mémorial, à savoir la mémoire, transmettre la mémoire, mais aussi que ce lieu est aussi un lieu de vigilance, un lieu où on est appelé à réfléchir, où on est amené à alerter face à ce qui se passe encore aujourd'hui, à lutter contre les discriminations. Et c'est vrai que le mémorial des déportés de la Mayenne ne faisait pas, à proprement parler, référence à toute cette notion de vigilance. Donc voilà, il y a eu une réflexion depuis plusieurs années et tout simplement c'est un adhérent de l'association qui est administrateur qui a proposé ce nom-là. Donc on a fait valider par l'association puisque c'était important que les adhérents valident ce nouveau nom. Et donc voilà, on a enclenché l'année dernière tout un travail autour de la communication avec un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle autour de ce nouveau nom. Qu'on a lancé il y a quelques semaines de ça, avec un compte Instagram aussi qui est en fonctionnement. Et puis prochainement, on va refondre également le site internet de la Vigie Mémoriale.
Le logo qui a donc évolué, comme vous l'avez dit, alors je vous laisse peut-être nous décrire ce nouveau logo et nous parler de la réflexion qui a été menée autour de la conception de ce nouveau visuel.
Oui, donc en fait, c'est une jeune graphiste mayonnaise là, qui a travaillé sur cela. L'idée, c'était de pas repartir à zéro non plus, de garder quand même l'identité du mémorial et de ce qu'il a fait fonctionner pendant 10 ans, donc de pas refondre intégralement le logo. Donc on retrouve en fait ces 3 rayures qui étaient dans l'ancien logo, rayures qui rappellent en fait, qui fait écho aux tenues des déportés, hein, donc la tenue rayée des déportés. Donc on retrouve en fait 3 rayures, une bleu clair, une bleu foncé et une orange un peu vive. L'idée de ce orange-là, c'est aussi d'amener de l'espoir aussi, un symbole aussi d'observation, de vigilance. Et donc dans ces rayures sont confondues en fait une colombe stylisée avec un œil dedans. Donc c'est pareil, l'œil fait référence à cette notion de vigilance, d'observation, d'alerte. Et puis la colombe fait bien évidemment en référence à la paix. Donc voilà, ensuite on retrouve la vigie, écrit de manière assez en police grasse, avec une subtilité puisque sur le deuxième i de la vigie, le i est inversé, donc ça forme un point d'exclamation pour vraiment évoquer l'action, le fait d'alerter, le fait de sensibiliser. Donc un petit peu ce nouveau visuel qui est coloré, qui est aussi moderne. On a voulu aussi moderniser un petit peu l'identité et l'image du mémorial au travers de cette nouvelle charte graphique.
Ne cherchons plus cette colombe, celle qui chante encore la peur. Ne cherchons plus au bout du monde, c'est dans nos cœurs qu'elle s'est cachée. Ne cherchons plus cette colombe, celle qui chante encore la paix. Ne cherchons plus au bout du monde, c'est dans nos cœurs qu'elle s'est cachée. Les accords de nos guitares et l'harmonie de nos couplets cette lumière de nos phares. Dans nos cœurs, vous les trouverez. Ne cherchons plus cette colombe, celle qui chante encore la paix. Ne cherchons plus au bout du monde, c'est dans nos cœurs qu'elle s'est cachée. Pourquoi chercher dans les nuages? Pourquoi toujours fixer le ciel? Pourquoi attendre son passage? Il y a dans nos cœurs l'essentiel. Ne cherchons plus cette colombe, celle qui chante encore la paix. Ne cherchons plus au bout du monde, c'est dans nos cœurs qu'elle s'est cachée. Besoin, tu sais, de ta lumière, de ce ferment même discret. Besoin de l'eau de ta rivière, de ces trésors en toi cachés. Ne cherchons plus cette colombe, celle qui chante encore la paix. Ne cherchons plus au bout du monde, c'est dans nos cœurs qu'elle s'est cachée. Ne cherchons plus cette colombe, celle qui chante encore la paix. Cherchons plus au bout du monde, c'est dans nos cœurs qu'elle s'est cachée.
On peut parler d'un bilan plutôt positif pour ces 10 années d'ouverture de cet espace vigilance. Est-ce qu'on peut parler justement des différentes actions menées par cet espace ?
Oui, donc en 10 ans, il y a eu beaucoup de choses d'entreprises par l'association. Donc de 2012 à 2022, ça a plus de 30 000 personnes sensibilisées. C'est plus d'une quarantaine, voire quasiment presque 50 conférences organisées. Il y a eu 7 expositions temporaires de créer intégralement, qui maintenant, ces expositions ont vocation à être itinérantes hein, pour les organismes, associations, collectivités, bibliothèques qui le souhaitent. Voilà, donc un bilan très positif pour le coup. Voilà, un public de plus en plus nombreux, à la fois en visite, à la fois lors des événements que l'on propose, parce qu'on a des événements variés qui sont déclinés tous les ans autour d'une thématique annuelle ou sur 2 années. Donc là, en ce moment, on est sur la thématique mémoire en héritage jusqu'en décembre 2023 avec une exposition temporaire et des cycles de conférences à découvrir aussi.
Vous l'avez dit tout à l'heure, donc l'objectif, vous donner plus de visibilité et attirer peut-être un autre public vers ce lieu de mémoire. Alors justement, quelles sont les actions mises en place ?
Oui, donc au travers de cette nouvelle identité-là, c'est vraiment l'idée de mettre en avant cette notion de vigilance, mais aussi de moderniser le lieu, de peut-être modifier les représentations qu'on en fait de ce lieu. Hein. C'est vraiment un lieu qui évoque le passé, mais qui est aussi tourné vers le présent et l'avenir. Et c'est vraiment ce dynamisme-là et cette volonté d'espoir qu'on voulait aussi mettre en avant autour de cette nouvelle identité visuelle et le fait de s'adresser aux jeunes générations, aux jeunes publics, aux générations présentes. On utilise aussi des supports qui sont pour le coup utilisés par le public qu'on souhaite attirer, donc d'où aussi la création de ce compte Instagram-là et puis cette modernité autour des différents supports de communication, des clients, sites internet, qui sont proposés actuellement.
Donc la Vigie Mémoriale des Déportés de la Mayenne se visite. Je vous propose de parcourir ce lieu de mémoire pour donner envie à nos auditeurs de programmer cette visite.
Oui, donc le mémorial, c'est quatre espaces, quatre salles à découvrir. Donc un premier espace qui s'appelle l'espace mémoire, où il y a trois salles. Une première salle avec des frises chronologiques pour rappeler le contexte de l'époque, des cartes qui permettent aussi de visualiser l'origine des déportés mayennais et les camps nazis. La deuxième salle, on va y retrouver des rares objets qui ont été ramenés des camps nazis, donc avec des témoignages très émouvants, très bouleversants autour de ces objets-là ramenés. La troisième salle, on va retrouver vraiment tout le mur des noms des déportés de la Mayenne, avec vraiment l'intégralité de leur parcours, avec des fiches biographiques sur chacun des parcours de ces déportés mayennais. Et la quatrième salle, ça va constituer l'espace vigilance. On présente actuellement une exposition temporaire qu'on a intégralement créée autour de la thématique mémoire en héritage. Donc c'est une exposition temporaire qui est une exposition photo où on a réuni en fait sur un même cliché un descendant déporté avec le portrait de son ascendant déporté, du coup, donc un portrait d'époque avec des témoignages de ses descendants. L'idée de cette exposition là c'est de montrer l'impact qu'a eu la déportation sur les générations qui ont suivi, puisque même si ces descendants là n'ont pas été témoins, n'ont pas vécu les camps, ils ont quand même eu la déportation a quand même eu plus ou moins une influence, un impact sur leur vie, sur leur engagement aussi, et ils ont dû se construire enfants, adolescents, adultes, avec un parent, un grand-parent qui a été déporté. Donc c'est l'idée de cette exposition-là, de montrer la transmission de la mémoire aussi.
Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dort en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite.
vie sans histoire est très sale. Mais elle n'est pas née comme toi, ici et maintenant.
Monsieur Joël Cailleri, bonjour.
Bonjour.
Je propose pour commencer quelques mots donc pour vous présenter à nos auditeurs et expliquer votre investissement bénévole à la Vigie.
Voilà, oui, donc je suis effectivement administrateur au mémorial des déportés de la Mayenne, donc qui s'appelle maintenant la Vigie depuis quelques mois. Dans cette association, j'ai plutôt pour rôle de faire évoluer le travail autour de la vigilance et de la citoyenneté. Donc il y a un groupe de travail dans lequel je suis investi avec d'autres personnes. L'idée, c'est un petit peu de proposer donc des initiatives et des axes de réflexion pour aller un peu plus loin sur les dimensions de vigilance et de citoyenneté.
Donc un nouveau rendez-vous que vous allez proposer en partenariat avec l'association Les Possibles, c'est le Café Citoyen. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire quelques mots sur l'association Les Possibles ?
Oui, l'association Les Possibles, donc c'est une association avec laquelle la Vigie travaille déjà depuis quelques années, notamment pour les temps périscolaires. Donc Les Possibles, c'est le centre socioculturel de Mayenne, en fait, qui propose de nombreuses activités et qui a à cœur, en fait, de proposer aussi des temps de réflexion ou d'approfondissement sur différents sujets. Donc ce qui fait que on s'est retrouvé un petit peu sur les mêmes longueurs d'onde, avec la même envie de nous ouvrir déjà vers l'extérieur, vers de nouveaux publics. Et donc c'est de là qu'est né le Café Citoyen en tout début d'année.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer le concept du Café Citoyen, comment ça se passe?
Oui, alors le Café Citoyen, en fait, c'est un concept qui est né au début des années 2010 et qui a connu pas mal de succès, surtout en France, surtout dans le centre et le sud-ouest du pays, assez curieusement. Et donc l'idée, c'est de donner un lieu d'expression qui soit vraiment ouvert à tous, à tout public, pour discuter autour d'un sujet, d'un sujet retenu, et dans un cadre qui est assez convivial, puisqu'il s'agit d'un café. Voilà, donc c'est vraiment le concept de base, de faire en sorte de permettre un échange autour d'un sujet.
Donc ce premier Café Citoyen, ce sera le samedi 28 octobre, le lieu à la salle de l'étage au bar La Renaissance à Mayenne. L'horaire, c'est à 10h. Je vous laisse peut-être nous situer ce lieu pour les personnes qui ne connaîtraient pas.
Donc le bar La Renaissance, qui nous accueille très aimablement, se situe en plein cœur de Mayenne, à proximité de la place du marché, tout près aussi du château de Mayenne. Voilà, c'est vraiment au cœur de la ville. On ne peut pas le manquer si on vient jusqu'au centre de Mayenne.
Peut-être une adresse exacte pour les personnes qui se laisseraient guider par leur GPS.
Voilà, c'est 21 place Georges Clémenceau, donc plein cœur de Mayenne.
Pour ce premier Café Citoyen, vous avez choisi d'inviter Monsieur Michel Ferron. Pourquoi ce choix ?
Voilà, donc on a choisi pour ce premier Café Citoyen le thème « Comment être citoyen aujourd'hui ?» Donc c'est vrai que c'est un sujet un petit peu bateau. On se disait pour commencer, on ne veut pas partir sur un thème assez généraliste, pour nous aider dans la réflexion, parce que le principe du Café Citoyen, c'est aussi d'avoir un intervenant qui ne monopolise pas la parole du tout, mais qui introduit un sujet et qui éventuellement le recentre en cas de nécessité. Or, Michel Ferron a un passé d'enseignant déjà, d'ancien élu, il a été élu conseiller municipal et aussi conseiller général à l'époque, on disait encore, et non pas départemental, et tout récemment, il a été président de la Maison de l'Europe en Mayenne. Il n'est plus là depuis quelques mois, mais il a une expérience d'homme engagé. Et donc c'est à ce titre-là, bien sûr, que nous l'avons invité, de par ses multiples fonctions d'homme engagé.
Vous disiez tout à l'heure l'idée d'aller à la rencontre d'un autre public, peut-être des personnes que vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer jusqu'à maintenant. Généralement, le public qui suit l'actualité de la Vigie, c'est quel public ? Il y a un public divers ?
Bah, ça peut être assez divers, mais c'est vrai que bien souvent, les gens viennent à la Vigie parce qu'ils sont de près ou de loin concernés par la thématique de la déportation. Ça, c'est clair. Hein. On va dire à peu près 2/3 du public vient parce qu'il est concerné de manière plus ou moins lointaine. Parce que certains viennent non pas parce que leurs parents, leurs grands-parents sont des anciens déportés, mais parce qu'ils ont pu être prisonniers de guerre ou requis du FPO. Donc voilà, des thématiques qui sont quand même relativement proches, mais souvent, c'est parce qu'ils sont concernés. Or là, justement, avec le Café Citoyen, on veut aller, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le fait pas dans les locaux du mémorial, hein, parce que justement, on veut toucher un autre public et les sensibiliser aussi à une réflexion autour des risques et des dérives que l'on peut être sentir dans la société actuellement, et donc qui méritent, une certaine, soit de l'information, soit des échanges qui peuvent prévenir, en fait, ce genre de dérive, quoi, qu'on a pu connaître il y a maintenant plus de 80 ans, quoi.
Oui, on peut imaginer que l'actualité sera au cœur de ces échanges.
Ça n'est pas impossible, parce qu'effectivement, il y a une actualité assez importante, avec notamment la question du conflit, ou on peut même parler de guerre israélo-palestinienne qui est ravivée. Oui, ça peut sans doute être aussi un sujet qui sera un point d'appui. On peut aussi penser à la guerre en Ukraine, encore plus de proximité avec l'Europe.
Alors, est-ce que ce Café Citoyen se déroule sur un temps défini ou c'est un libre-échange
Donc on a prévu un créneau horaire de 10 à 12 heures. Bon, on verra en fonction des échanges. Hein. On ne terminera pas de manière abrupte à midi pétante. Mais l'idée c'est malgré tout de circonscrire le débat dans un créneau horaire qui reste à peu près accessible pour tout le monde. Et puis, mais ensuite, justement, puisqu'il y a un temps de convivialité, donc chacun est amené à prendre une consommation. Donc on espère que durant ce temps-là, ce sera complètement informel. Ça permet de poursuivre les échanges et les débats. Et je pense que c'est ça aussi l'objectif, que ce soit pas une fin en soi, le Café Citoyen, mais que ça se prolonge de manière qui nous dépassera certainement.
Là, on parle d'un premier Café Citoyen. Je suppose que d'autres rendez-vous sont déjà planifiés.
Pour l'instant, il n'y a pas d'autres rendez-vous de planifiés, mais on y pense effectivement. Si la proposition rencontre un bon accueil, on n'a pas de raison d'en douter. Oui, on envisage en fait une périodicité mensuelle, peut-être le dernier samedi de chaque mois, mais là-dessus, on va sonder entre guillemets les participants pour savoir si c'est vraiment le créneau horaire le plus approprié. Mais l'idée, c'est ça, voilà, c'est de partir sur Mayenne, dans ce lieu, en concertation Les Possibles et la Vigie, de proposer donc ce Café Citoyen. Il sera invité aussi à proposer des thèmes pour qu'on puisse tenir compte aussi des choix et des envies.
Vous remercie pour ces informations. Est-ce qu'on peut éventuellement communiquer un numéro de téléphone pour les personnes qui souhaiteraient plus de renseignements sur cette organisation? Et on rappelle la date, le samedi 28 octobre, premier Café Citoyen sur le thème « Comment être citoyen aujourd'hui ?» au bar La Renaissance, salle de l'étage, 21 place Georges Clémenceau à Mayenne. Alors pour plus de renseignements, est-ce qu'on peut communiquer un numéro de téléphone?
Voilà, pour contacter la Vigie à ce sujet, vous pouvez contacter donc Aurélien, qui connaît parfaitement cette question, donc au 02 43 08 87 35.
Merci à vous.
Eh bien, à vous aussi.
C'est vrai qu'ils sont plaisants tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux dits, ces cités, avec leur château fort, leur église, leur plage. Ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leurs remparts. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. soit ses enfants de leur mère patrie empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher. Qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leur baudruche. Leur bulle de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux même en bois rend jaloux tout le monde, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire contre les étrangers, tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie serait belle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards, preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Madame Marie-Claude Tourtelier, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes, en ce qui vous concerne, vice-présidente de l'association. Quelques mots pour vous présenter.
Donc moi, je suis donc professeure d'histoire et de géographie dans un lycée Lavallois, donc au lycée Rousseau. Depuis maintenant une bonne trentaine d'années, je suis la vice-présidente du mémorial, de la vigie mémorial des déportés depuis sa création, hein, depuis donc 2012. Enfin, même depuis 2007, puisque l'association existe depuis 2007. Et donc, je suis par ailleurs impliquée dans la préparation du concours national de la résistance et de la déportation en Mayenne. Et je suis régulièrement sollicitée dans le cadre de mon lycée pour toutes les initiatives en relation avec les questions, donc effectivement, de mémoire liée à la Seconde Guerre mondiale, de citoyenneté, question assez brûlante actuellement.
On vous accueille pour nous présenter ce nouveau cycle de conférences programmé cette année en ce mois de novembre. Alors, chaque année, un nouveau thème est abordé. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur les thèmes que vous avez déjà abordés concernant cette Seconde Guerre mondiale ?
Alors, oui, tout à fait. Donc, j'ai abordé donc la question du nazisme sous l'angle donc idéologique, la question de la collaboration, du régime de Vichy, de la résistance, la question de la mémoire de la Shoah. Et l'année dernière, c'était ainsi qu'était consacré au système concentrationnaire, donc déporté dans les camps de concentration. Voilà. Et j'avais fait un cycle aussi sur le général de Gaulle
Voilà. Et donc cette année, vous allez consacrer ce cycle de conférences au travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale, STO. Oui. Alors l'intitulé, c'est « Travailler chez l'ennemi, histoire mémoire oui. des requis du STO ». Alors je vous laisse nous en dire un petit peu plus donc à ce sujet, donc concernant ces prochaines conférences à venir.
Alors le choix qui a été fait de faire un focus sur les requis du STO, c'est un choix qui s'inscrit en fait dans un travail donc assez ancien de la Vigie, Mémorial des déportés, qui consiste donc à aussi informer sur, on va dire, des mémoires oubliées. Et le cas des STO, comme celui des prisonniers de guerre, rentre dans cette catégorie. En Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a donc sans doute près de 2,5 millions de Français qui ont été donc déplacés de force pour la plupart. On évoque évidemment en premier donc les Juifs donc déportés en Allemagne pour y être assassinés, et puis donc les déportés dans les camps de concentration. Et on parle beaucoup moins des prisonniers de guerre. Et encore moins, donc, effectivement, des travailleurs, et notamment de ceux qui, à partir de 1942 et 1943, tombent sous le coup du service du travail obligatoire. Et qui sont de jeunes Français, entre 600 et 650 000 au total, quand même, dont beaucoup d'entre eux donc sont revenus avec un certain nombre de séquelles. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les conditions qu'ont vécu les déportés ou a fortiori donc les Juifs assassinés à Auschwitz. Mais néanmoins, c'est une mémoire qui témoigne donc de souffrance et qui a été donc assez vite occultée au lendemain de la guerre. Et pourtant donc cette question du STO, une question importante parce que c'est aussi à replacer dans un contexte plus large qui est celui de l'économie de guerre et puis d'une forme de prédation économique organisée par l'Allemagne nazie dans les pays qu'elle a occupés.
Vous avez connaissance de quelques familles mayennaises qui auraient donc des ascendants concernés par ce service de travail obligé ?
Oui, parce qu'on a plusieurs déportés qui ont été déportés dans le camp de concentration après avoir été requis du service du travail obligatoire. Alors ils sont pas très très nombreux, hein. C'est de l'ordre donc d'une petite dizaine, mais il y en a un notamment qu'on connaît bien parce que il a témoigné, et puis par ailleurs il était à l'origine donc des déportés qui ont soutenu la création du mémorial. C'est Monsieur Renaudin, Marcel Renaudin, qui donc est un exemple assez typique en fait, hein, de jeune homme parti en Allemagne au titre du STO, mais soupçonné de faits de résistance dans l'usine pour laquelle il travaillait, et donc accusé donc de faits de résistance et déporté finalement dans le camp de Dachau, dont il a survécu, mais dont il est revenu avec des séquelles psychiques et physiques importantes.
Pour évoquer ce sujet donc de cette année, trois dates, trois conférences, oui. Je propose que vous nous détailliez cette programmation et le lieu sur lequel on pourra donc vous retrouver.
Alors donc les dates, ça commence le 8 novembre, donc à chaque fois c'est un mercredi, hein. Donc 8, 15 et 22 novembre. Donc le 8, ça sera une conférence qui sera une mise en contexte en fait, hein, du service du travail obligatoire dans le contexte plus global de la prédation économique allemande. Alors centrée évidemment sur la situation française, mais ça sera donc l'occasion de remettre en contexte le STO par rapport aux politiques de collaboration, par rapport donc aux logiques de prédation nazie. Alors la deuxième conférence, elle sera plus centrée sur la vie des travailleurs requis, donc les conditions de vie, de travail en Allemagne, et puis donc les séquelles, la question de la mortalité, parce que donc effectivement un certain nombre ne sont pas revenus. Et puis la troisième conférence sera consacrée à la question de la mémoire, justement, du STO et de cette mémoire douloureuse qui n'a pas réussi donc effectivement à trouver sa place au lendemain de la guerre dans l'espace public et qui reste aujourd'hui donc effectivement une mémoire encore en grande partie oubliée. Alors cette année, pour ce qui est de l'organisation, nous proposons donc deux horaires. Donc en début d'après-midi, 14h30, aux archives départementales à Laval, donc rue Ernest Lorrain, Et puis, donc, le soir, à 19h30, ce sera donc à la Vigie, Mémorial des Déportés, donc à Mayenne, rue Ambroise Deloré. Ce qui donne deux possibilités, en fait, pour les Mayennais, le nord du département, et puis éventuellement, effectivement, les départements limitrophes hein, de l'Orne, de venir le soir jusqu'à Mayenne. Et puis, pour les gens de la région lavalloise et puis du un peu plus du sud du département, eh bien c'est en début d'après-midi donc aux archives départementales.
On rappelle les trois dates, le mercredi 8 novembre, le mercredi 15 novembre, le mercredi 22 novembre. Alors côté pratique, oui. Si on veut y participer, comment ça se passe? Une inscription?
Oui, on peut s'inscrire auprès de la Vigie, donc par téléphone ou par un simple mail. Cela dit, on peut aussi se décider au dernier moment parce que voilà, il y a toujours de la place. Hein. La réservation nous facilite les choses, je dirais d'un point de vue pratique, mais elle n'a aucun caractère obligatoire. On peut assister à l'une des conférences ou à l'ensemble du cycle, hein, parce que chaque conférence effectivement est bien identifiée par rapport aux autres. Donc, si on n'a pas la possibilité d'assister aux trois conférences, c'est tout à fait possible. Alors, nous proposerons aussi, pour ceux qui nous donneront leurs coordonnées, donc là, évidemment, ça nécessite inscription, nous proposerons aussi de suivre en visio, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, ou de visionner les conférences après, puisque nous les enregistrons et nous les rendons disponibles ensuite sur notre chaîne YouTube, mais c'est un accès privé, donc ça nécessite évidemment une inscription et puis ça nécessite donc effectivement de régler l'inscription au cycle.
Petite participation financière, participation aux frais est demandée pour participer à ces conférences.
Prenons 6 euros par conférence ou 15 euros pour une inscription pour le cycle complet.
Une programmation sur 2 jours sur le service de travail obligatoire donc à Évron, ce sera le 24 et 25 novembre. Peut-être que vous avez quelques informations à nous communiquer.
Oui, il y a notamment une rencontre qui viendra prolonger en fait mon cycle avec un des auteurs principaux sur le STO qui est donc Raphaël Spina. Donc il y a deux historiens principaux, donc lui il donnera une conférence justement sur le STO dans l'Écho Évron, et donc il y a deux auteurs principaux sur la question du STO, donc Patrice Arnaud qui malheureusement est aujourd'hui décédé, et puis donc Raphaël Spina. Et donc à l'initiative des archives municipales d'Évron, Raphaël Spina vient donner une conférence à Évron. Et donc là, c'est tout à fait intéressant, puis ça s'inscrit vraiment dans le prolongement du cycle que j'aurais donné dans les mercredis qui précèdent.
Justement, en guise de conclusion, peut-être un petit commentaire sur l'actualité.
C'est une actualité tout à fait dramatique et tout à fait préoccupante. Bon, pour ce qui est du mémorial, de la vigie, du mémorial des déportés, pour le moment, nous avons fait le choix de la prudence. En ne prenant aucune position parce que les deux causes sont tout aussi légitimes. La cause palestinienne est une cause tout à fait légitime et le drame des Palestiniens est réel. Mais la cause israélienne est tout aussi légitime. L'État d'Israël est un État donc légitime qui doit se défendre, bien entendu. Donc c'est une situation extrêmement compliquée. Beaucoup de gens en ignorent souvent effectivement la profondeur historique. C'est souvent présenté comme un conflit religieux alors qu'en réalité ce n'est pas un conflit religieux, c'est d'abord et avant tout un conflit territorial qui ne peut trouver de solution que sur le plan politique, mais qui est largement instrumentalisé malheureusement par des groupes terroristes qui utilisent en fait la religion pour donc donner une légitimité à leur cause, et ça brouille énormément le message et ça conduit malheureusement donc à des actes d'une barbarie sans nom hein, parce qu'il est évident que ce qui s'est produit le 7 octobre en Israël, donc ces attaques sont d'une barbarie absolument terrible et qui rappelle donc effectivement les pires crimes commis au nom du djihadisme et de l'islamisme.
Merci à vous Marie-Claude Tourtelier. Je propose qu'on communique pour terminer donc un numéro de téléphone pour joindre la Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne.
Le Mémorial des Déportés est joignable au 02 43 08 87 35.
Merci à vous, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Le colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance, et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France, le sergent était boulanger-pâtissier, le caporal était dans l'ignorance, et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des cautions leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Rapparabarabarabar, le colonel avait de l'albumine, le commandant souffrait du gros colon, le capitaine avait bien mauvaise mine, et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de coliques néphrétiques, le sergent avait le pylore atrophié, le caporal un corps isachronique, et le deuxième classe des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillets, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, lèvent la bien portant, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là? Mais du pinard et du tabac. Le colonel était de l'action française, le commandant était un modéré, le capitaine était pour le diocèse, et le lieutenant bouletait du curé. Le juteux était un fervent extrémiste, le sergent un socialiste convaincu, le caporal inscrit sur toutes les listes, et le deuxième classe au PMU. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix.
On est sur une visite libre ou des visites guidées sont proposées? Combien de temps pour visiter ce lieu?
Alors, le mémorial, du coup, la Vigie, peut se visiter de deux manières, hein, de manière guidée. Donc, les visites guidées sont sur réservation. Voilà, il suffit juste d'appeler un petit peu avant pour réserver un créneau horaire. Et les visites, sinon, sont en autonomie. Donc, on met à disposition des audioguides, des livrets de visite pour accompagner la visite pour ceux qui le souhaitent. On est sur une heure quinze à peu près en moyenne de durée de visite.
On va terminer en rappelant que la Vigie Mémorial des Déportés de la Mayenne, c'est une structure associative. Alors, comment est-ce qu'on peut participer à son fonctionnement?
On peut y participer de différentes manières. En premier lieu, en soutenant un adhérent, l'association. Du coup, donc c'est une adhésion qui, pour le moment, à 15 €, qui va passer prochainement à 20 €. Qui, avec cette adhésion-là, donc ça soutient toutes les actions qu'on organise toute l'année, mais ça permet aussi et surtout un accès illimité au lieu. Ça permet aussi une réduction sur les publications, sur les conférences qu'on organise. Donc voilà, il y a un petit avantage quand on est adhérent. Et puis voilà, c'est aussi soutenir en devenant bénévole aussi, par exemple. Voilà, on propose aussi toute l'année des missions de service civique, donc c'est aussi en candidatant parfois des missions de service civique que l'on propose. Donc il y a différents moyens de nous soutenir.
Et les infos pratiques pour vous rejoindre, justement, peut-être le prix de l'entrée au mémorial et comment vous trouvez facilement dans cette ville de Mayenne?
Oui, donc à Mayenne, on est situé 23 rue Ambroise Deloré, donc on est sur la Nationale 12, au bord de la Nationale 12, voilà, en direction de Rennes, quand vous venez de la Sarthe, entre autres. Pour les coordonnées, du coup, nous, on est joignable au 02 43 08 87 35. Et le prix de l'entrée, c'est 5 euros pour les adultes. On a un billet jumelé avec le château de Mayenne à 7 euros. Et on a un tarif réduit pour les 12-18 ans à 3 euros. Et gratuit pour les moins de 12 ans.
Merci à vous, Élodie Roland. Je vous dis à bientôt.
Merci, à bientôt.
Ne chante dans les arbres secs et creux, aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher, aux terres de détresse où sans cesse piocher.